Vous écoutez France Culture.
Question d'époque, Xavier Delaporte, bonjour à tous. Comme tous les vendredis dans Questions d'époque, c'est Place de la Toile, l'actualité des nouveaux médias et les questions qu'ils nous posent. Place de la Toile avec, évidemment, Thomas Baumgartner. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Au programme de Place de la Toile aujourd'hui, à 11h50, la chronique hebdomadaire de Bruno Patino qui nous expliquera à quoi peut ressembler un inconcevable vendredi sans mail. Quant à notre dossier du jour, il sera consacré à la question de l'archive, archivée sur le web, archivée le web, ce sera dans quelques minutes. Mais tout de suite, l'actualité de ce qui se passe, ou ne se passe pas d'ailleurs, sur le web. Thomas, vous vouliez commencer par la suite du feuilleton Microsoft-Facebook.
Oui, Facebook, ce réseau social, c'est ce site où on se présente, on met sa photo, ses sites préférés, on met des liens vers son propre blog, vers d'autres sites, on se fait des amis, on se fait un réseau d'amis, c'est un réseau social, c'est ça le schéma de Facebook. C'est donc effectivement le troisième épisode de l'histoire Microsoft-Facebook, puisqu'après il y a eu un premier épisode, l'offre possible qui était dans l'air d'un achat d'une part de Facebook par Microsoft, puis ensuite deuxième épisode, les dénigrements du PDG de Microsoft à l'égard de Facebook, dont il disait que c'était une mode passagère, les dénigrements dont on a dit que c'était simplement fait pour faire baisser les prix.
C'est une vieille stratégie.
Voilà, et donc, mercredi, troisième épisode, finalement le rapprochement entre Microsoft et Facebook s'est bien fait, on publie les bancs, Microsoft achète Facebook, c'était mercredi, en fait Microsoft achète une petite partie, une toute petite partie de Facebook, la firme de Bill Gates a acheté cette semaine donc 1,6% de Facebook pour la somme de 240 millions de dollars, donc finalement la part de l'investissement fait par Microsoft dans le capital de Facebook est moins importante qu'annoncé il y a quelques semaines par le Wall Street Journal. À l'époque, on disait que Microsoft allait acheter 5% de Facebook pour 500 millions de dollars.
Ça coûte très cher, Facebook, hein, quand même.
Apparemment, ça coûte très cher, en tout cas pour ceux qui en veulent des parts, ce qui aurait valorisé, cette première projection aurait valorisé la totalité de Facebook virtuellement à 10 milliards de dollars. Donc finalement, Microsoft, mercredi, a acheté moins de capital, mais il l'a acheté plus cher, car l'accord effectivement passé valorise donc Facebook à virtuellement 15 milliards de dollars, 1,6% du capital de 240 millions, ça fait bien ça. En fait, derrière cette transaction, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que Facebook a besoin d'argent, c'est en pleine croissance, il y a de plus en plus de monde sur ce site, donc il faut pouvoir suivre financièrement. D'ailleurs, en ce moment, 1 million d'utilisateurs en plus chaque mois sur Facebook. Deuxième aspect, il y a le bras de fer, un bras de fer entre Google et Microsoft. Autour de ce site, autour de Facebook, il y a un bras de fer industriel entre ces deux géants, Google étant la réussite de l'époque du net et Microsoft ayant jusqu'à présent plutôt raté le virage de l'Internet en cherchant aujourd'hui à rattraper son retard. Et puis, troisième volet, le plus important, ce qui est derrière tout ça, c'est la pub. C'est l'enjeu du bras de fer. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui dans un web qui est de plus en plus gratuit et donc c'est ça l'enjeu industriel de taille aujourd'hui. Microsoft, avant-hier, a présenté son investissement dans Facebook comme une alliance stratégique. Et effectivement, l'accord conclu entre les deux entreprises comprend un accord sur la publicité. Microsoft devient le partenaire exclusif de Facebook en matière de pub. Et gérer la pub de Facebook, c'est vendre aux annonceurs un nombre d'internautes assez faramineux. Facebook espère atteindre à la fin de l'année les 60 millions d'utilisateurs dans le monde.
Ce qui fait aujourd'hui à peu près combien ?
60 millions d'utilisateurs ?
Oui, non, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils espèrent ça, atteindre ça.
Aujourd'hui, on est à une cinquantaine de millions d'utilisateurs de Facebook. Cinquantaine de millions d'utilisateurs inscrits à Facebook.
D'accord. Alors, deuxième point d'actualité, il est tout frais, puisqu'on se souvient qu'à la mi-septembre, le PDG de la Fnac, Denis Oliven, avait été chargé par le gouvernement d'une mission sur le téléchargement illégal et puis sur aussi des mesures qui rendraient attractive l'offre légale. Alors, une mission dont les conclusions sont très très attendu, tant les tentatives précédentes de légiférer sur ces questions avaient été cafouilleuses, on s'en souvient tous. Et ce matin, Libération livre un entretien avec Denis Oliven qui donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le rapport final. C'est donc une sorte de rapport de mi-étape. Alors, premier élément, on est rassuré, Denis Oliven considère que le problème n'est pas de pénaliser le téléchargement illégal, sauf pour les pirates industriels, ceux qui téléchargent illégalement ou qui abritent illégalement dans des quantités industrielles, mais de le désinciter. capacité, c'est, je cite son terme, donc de rendre le téléchargement illégal coûteux et compliqué et de rendre le téléchargement légal plus simple et moins cher. Alors évidemment, le problème, c'est toujours la question des moyens, quels moyens se donner pour arriver à ces fins. Alors c'est là où Denis Oliven est légèrement plus évasif. Alors deux pistes assez minimales. Un, la suppression des verrous numériques sur la musique, c'est la première piste. Et la deuxième, c'est de raccourcir le moment où les films sont disponibles sur le net. Actuellement, c'est 7 mois et demi, ce qui est beaucoup trop long, puisque entre-temps, évidemment, les téléchargements illégaux se sont multipliés.
Donc, ils seraient présents plus tôt sur Internet.
Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, mais s'il réaffirme la nécessité d'empêcher le téléchargement illégal, il ne donne pas vraiment de solution. Et surtout, on ne voit s'ébaucher aucune réflexion de fond sur la question du droit d'auteur, notamment. Alors, mais Denis Oliven avait dit que le rapport qu'il remettrait à Christine Albanel à mi-novembre tiendrait sur une feuille de papier A4. Donc, pour l'instant, au moins, ça, c'est une promesse qui est tenue. Et puis... troisième point d'actualité, Thomas, vous vouliez insister un peu plus longuement ce matin sur une série de rencontres qui ont lieu à Marseille, c'est ça ?
Absolument. Aujourd'hui et demain à Marseille, ce sont les rencontres place publique qui organisent 3 jours de discussion autour du thème du hacker et de la culture libre. Ça va rentrer en écho avec ce que vous venez de dire sur le rapport d'étape de Denis Oliven. On va voir ça. Petite mise en contexte, les rencontres place publique ont lieu à Marseille depuis 1994. Il s'agit d'inviter des philosophes, des sociologues, des penseurs pour évoquer des questions liées à l'art et à la culture. C'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Serrano qui a imaginé ces rencontres. Il dit vouloir privilégier l'exposition de la pensée face à une surenchère d'exposition tout court. Et cette année, donc, cette exposition de la pensée se penche sur la question du hacking et de la culture libre. Culture libre, culture hacker. Et avec nous au téléphone ce matin, Patrice Maniglier, philosophe, professeur à l'université d'Essex en Grande-Bretagne. Bonjour Patrice Maniglier.
Bonjour.
Vous avez co-organisé ces rencontres, vous les avez problématiser de quelle manière d'ailleurs ?
J'ai fourni un espèce d'argumentaire qui permettait de donner un cadrage problématique autour du thème, disons, de ce qu'on appelait l'acculturation, disons, le hacker en fait étant ce personnage qui ressemble pour nous à un pirate informatique, mais dont un certain nombre de théories dans ce qu'on appelle les media studies américaines on cherchait à extraire une nouvelle figure, disons, de la subjectivité subversive ou révolutionnaire, le hacker étant en fait tout producteur de biens symboliques, tout producteur culturel qui se sent finalement mal à l'aise dans le régime actuel de la propriété intellectuelle. Donc l'acculturation, c'est la question de savoir qu'est-ce que notre culture contemporaine, actuelle, peut faire de ces nouvelles technologies et est-ce que le concept même de culture n'est pas finalement transformé par cette nouvelle forme de production, de diffusion et de consommation de la culture.
C'est vrai, quand on voit le titre culture libre, culture hacker, on a l'impression de deux expressions un peu antinomiques, en tout cas dans leur sous-entendu, puisque culture libre, il y a une forme d'utopie derrière cette expression-là, culture hacker, c'est effectivement le pirate.
Oui, mais en fait, il faut voir que les inventeurs même de ces technologies informatiques étaient souvent des gens très engagés politiquement, du côté, disons, plutôt libertaire, voire anarchiste, des gens comme Ted Nelson, par exemple. Bon, et aujourd'hui, cette tradition est toujours extrêmement vivante, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose de très californien qu'on a longtemps sous-estimé en France avant qu'on se rende compte que finalement ces gens ont effectivement changé le monde. Alors la question effectivement qu'on s'est posée, c'est de savoir si ces utopies à cœur, qu'on regardait quand même comme étant très naïves, mais dont on doit bien constater qu'elles ont changé le monde, si malgré tout elles ne représentaient pas une forme vivante des politiques d'émancipation contemporaine et en particulier pour les producteurs de la culture.
Je me posais la question, en quoi on peut affirmer qu'elles ont changé le monde, ces cultures hackers ?
C'est-à-dire que ces gens ont véritablement inventé des technologies. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde qui est quand même très organisé autour effectivement des technologies télé-numériques, c'est-à-dire à la fois digitales et en réseau. Et les gens qui ont inventé Internet, il n'y a pas que l'armée américaine qui a inventé Internet, il y a aussi, je vous dis, des anarchistes, en fait, qui pensaient... Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Ils pensaient, en fait, que l'information ne devait plus être organisée de manière hiérarchique et linéaire, mais de manière, justement, réticulaire, décentralisée, ouverte, dispersée. Et surtout, leur espoir, c'était, effectivement, disons, de casser les médiateurs. Et ça, on le voit très bien, par exemple, quand on est un écrivain, mais aussi bien, d'ailleurs, quand on est un musicien. Mais le problème, par exemple, de la publication... est quelque chose qui fait souffrir énormément de producteurs culturels. Et donc la question qu'on s'est posée, tout simplement, c'est de savoir si effectivement ces nouvelles technologies ne permettaient pas d'avoir un usage politique et et politique aussi au niveau des institutions publiques qui permettaient de remplir les objectifs des politiques culturelles qui sont celles précisément d'un meilleur accès de la culture à tous.
En fait, la culture libre, la culture hacker, c'est la vraie culture décentralisée ?
En tout cas, c'est ce que prétendent un certain nombre de gens. Et donc ces journées, en fait, qui sont organisées, qui sont conçues par Jacques Serrano, qui est à l'origine un artiste, qui a renoncé à sa pratique artistique, justement parce qu'il se sentait mal à l'aise dans les formes d'appropriation de l'objet d'art, et que finalement, héritier d'une tradition conceptuelle, il aspirait à une forme de réalisation de l'objet d'art plus virtuel en quelque sorte, et donc c'est un travail qu'il fait depuis très longtemps, de plutôt réfléchir sur la notion d'art, que finalement continuer à produire des œuvres d'art sans être tout à fait sûr de ce qu'on fait, et donc d'une certaine manière, les nouvelles technologies en fait permettent finalement de relancer cette question de manière extrêmement précise, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer véritablement une nouvelle forme d'existence des produits culturels.
Patrice Maniglier, donc ces rencontres place publique se déroule en trois temps principaux. Et hier, le premier temps, c'était une rencontre intitulée « Attitude manifeste éthique hacker ». Donc ça signifie qu'au-delà du bidouillage du pirate Internet, il y a véritablement une attitude, une éthique du pirate libre.
C'est-à-dire que c'était autour d'un auteur qui s'appelle Mackenzie Work, qui a écrit un manifeste hacker, qui a justement cherché à construire un concept de hacker qui dépasse largement les gens qui maîtrisent les outils informatiques, effectivement, et qui savent bidouiller, pour justement définir le hacker, finalement, comme tout producteur culturel qui cherche à réaliser, grâce aussi aux nouvelles technologies, mais pas forcément uniquement là-dedans, ce que Mackenzie Work pense être l'essence même de la culture ou des biens symboliques, à savoir leur dimension inappropriable, gratuite, partagée. Donc ça, c'est une position très forte sur la nature même, en fait, des biens culturels qui seraient par nature partagés et qui seraient simplement secondairement appropriés. Et donc, effectivement, là, on rencontre, mais à un niveau extrêmement conceptuel, les problèmes sur la propriété intellectuelle. Alors, l'attitude à cœur, c'est aussi justement l'idée selon laquelle, finalement, ce nouveau type de subjectivité politique qui est lié au problème de la propriété intellectuelle serait peut-être la subjectivité subversive ou révolutionnaire propre à notre époque.
Est-ce que vous êtes un philosophe hacker ? Est-ce que vous avez cette hacker attitude, Patrice Maniglier ?
Écoutez, en tout cas, je suis extrêmement intéressé par la possibilité, notamment dans le domaine du livre, d'utiliser les techniques contemporaines pour essayer de dépasser la crise, en fait, du livre. Parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui se trouvent dans cette situation où, finalement, ils ne peuvent pas mettre à disposition leur travail, d'une certaine manière, ni trouver aussi comme récepteur un travail qui les intéresse, parce que effectivement, tout simplement, il n'y a pas les médiations ne sont pas là. Donc effectivement, moi je suis extrêmement intéressé par essayer de réfléchir à des nouvelles formes de publication, de mise à disposition du public, sachant bien sûr que ça pose deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est celui de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des contenus sur Internet pour qu'ils soient visibles, pour qu'ils soient accessibles. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir, et ça pose la question des moteurs de recherche, de ce type de problème. Et deuxième question, c'est aussi évidemment la question de la rémunération. Alors là, il y a deux positions. Il y a des gens qui pensent que finalement la rémunération ne doit pas être se placer au niveau de la production culturelle elle-même, mais en fait qu'il faut avoir un autre métier, quoi. Et puis effectivement il y a des gens qui pensent qu'il faut trouver d'autres formes de rémunération sur Internet, comme par exemple le don, tout simplement. Et Mackenzie Ward fait partie de ces gens effectivement qui pensent que l'économie de la culture devrait être une économie du don, ce qui ressemble beaucoup par exemple à ce que disait Socrate. L'origine même de la philosophie, c'est justement de dire on vend pas la philosophie, si on ne vend pas la culture au sens de l'éducation de la vertu, vous me donnez ce que vous voulez pour ce que je fais, mais je ne le vends pas.
Socrate, premier hacker, Socrate, hein, donc.
Je crois que Socrate, effectivement, avait la hacker attitude de ce point de vue-là. Hein, si on compte.
Il vous en remercie d'où il est.
Patrice Maniglier, une dernière question. On parlait à l'instant du rapport d'étape de Denis Oliven et de cette interview qu'il donne ce matin dans Libération, et il affirme l'urgence, c'est de compliquer le piratage. Il se met dans des formes plus classique que celle que vous évoquez. Quelle réaction vous avez à cette idée-là ?
Oui, je pense qu'en fait, ce n'est pas l'urgence. Je pense justement qu'on a d'un côté en France cette situation dans laquelle on a un état culturel extrêmement présent qui réfléchit au problème justement de la gratuité de l'accès à la culture, qui veut en fait une très large diffusion de la culture, et qui d'un autre côté est confronté effectivement à des industries culturelles, et qui ne se pose pas la question très simple de dire non pas comment réguler en fait ces nouveaux usages de la culture, ces nouvelles formes de diffusion, mais comment s'en servir pour la réalisation des buts des politiques culturelles. Et c'est-à-dire, on pourrait imaginer que les politiques publiques en matière de culture se chargent, par exemple, de mettre à disposition les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour les producteurs culturels et leur apprennent à diffuser leur travail autrement, ou qu'ils inventent en fait des espaces à l'intérieur. Par exemple, on pourrait imaginer que le ministère de la Culture crée des espaces qui permettent effectivement aux gens de diffuser leur travail. Bon, et donc, je pense que l'approche qui consiste à dire l'urgence, c'est de régler le problème du piratage, n'est pas juste l'urgence, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour plus de créativité, pour plus de bonheur, pour plus de diffusion de la culture. Je crois vraiment que c'est ça l'urgence, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise culturelle. On n'est pas dans une situation dans laquelle il y a trop de culture et il faut savoir comment la contrôler. On est dans une situation dans laquelle il n'y a pas assez de culture.
Merci Patrice Maniglier. Donc je rappelle les rencontres place publique autour du thème de l'acculturation. Culture libre, culture hacker, c'est dans le quartier du Panier à Marseille. Et cet après-midi, 14h30, culture libre, institution culturelle, économie marchande, c'est le thème de la rencontre de cet après-midi. Merci à vous.
Tout de suite, le dossier de Place de la Toile. Les journées d'études Archimage se sont déroulées en début de semaine, 3 jours consacrés à la question du patrimoine audiovisuel et cinématographique. Parmi les questions qui ont été soulevées lors de ces journées, celle de l'archivage et en particulier de l'archivage sur le net, une question qui est technique, qui est économique aussi, mais qui touche au fondement même de ce que c'est qu'une archive, le choix, l'usage, le public auquel elle se destine. Des questions que nous nous poserons ce matin dans Place de la Toile en élargissant notre champ à d'autres formes de patrimoine que sont par exemple la littérature et la presse, et donc ce que cela peut modifier dans des métiers comme celui de bibliothécaire par exemple. Mais ce qui est tout à fait passionnant en la matière, c'est que la question de l'archive sur le net est réversible. Il y a archiver sur le web, mais il y a aussi archiver le web, et là ce sont d'autres perspectives encore qui s'ouvrent, Thomas.
Mais archiver le web, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on pourra compulser à l'avenir tel ou tel blog, telle ou telle publication en ligne? Surtout, est-ce qu'on pourra la compulser dans l'état où on l'a vu quand elle a été mise en ligne? L'historien de demain, le chercheur ou le curieux, est-ce qu'ils pourront s'en servir comme on se sert des publications papier aujourd'hui qui sont archivées, alors que le net c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose de vivant, voire d'impossible à cadrer? C'est ce genre de questions qu'on va pouvoir se poser en compagnie de nos invités. Marc Vernet, bonjour, vous enseignez à l'université Paris Diderot, vous êtes professeur d'études cinématographiques et vous êtes conseiller à l'Institut National du Patrimoine, pour le patrimoine cinématographique, et puis vous êtes délégué général d'Archimage, une série de rencontres qui viennent de se dérouler à la BNF, en début de semaine,
et à l'INP,
à l'Institut National du Patrimoine, rencontre donc autour de la question du patrimoine audiovisuel, on va y revenir. À vos côtés, Yves Alix, vous avez le titre de conservateur des bibliothèques, vous avez travaillé dans plusieurs bibliothèques parisiennes, vous êtes rédacteur en chef du bulletin des bibliothèques de France, et à ce titre très au fait de l'actualité du métier, un métier qui change, et ce sera sans doute un des thèmes de notre discussion. Et avec nous aussi Arnaud Beaufort, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la BNF, chargé des services et des réseaux, car oui, réseau et archives, réseau et conservation, ce sont bien des mots qui vont nous servir plus d'une fois ce matin.
Alors Marc Vernet, on va commencer avec vous, puisque France Culture était partenaire.
Tout à fait, et nous en sommes fiers et heureux.
Mais nous aussi, savez-vous, nous aussi. Alors, ce qu'on voulait commencer, on se posait la question avec Thomas, c'est la 6e édition, c'est ça
C'est ça, on a commencé en 2002, oui.
Et est-ce que cette édition, c'est plus que les précédentes, ou moins peut-être, parce que ces questions ont été réglées, intéressée à la question de l'archivage sur le net?
C'est une question qui traverse ces rencontres depuis leur création, mais c'est la première fois qu'on est amené à l'aborder de façon aussi large et aussi générale. D'abord parce que en cours de route, l'INA nous a rejoint dans cette configuration et donc a apporté une toute autre dimension que celle qui était au départ, simplement les archives cinématographiques en Europe.
Et que l'INA était pionnière d'ailleurs.
Et que l'INA Julien est absolument pionnière sur cette question de l'archivage électronique et de l'archivage avec la BNF d'un certain nombre de choses à travers le dépôt légal ou à travers d'autres structures. Donc c'est intéressant parce que si le point de départ c'était les cinémathèques de cinéma ou les archives de cinéma en Europe, elles ne sont pas isolées. Elles sont aujourd'hui dans un paysage qui a changé par rapport à leur création. Et une des choses qui a changé, c'est cette notion justement de dépôt légal et d'archivage systématique. Dépôt légal qui est à la fois une volonté politique en France, d'accord, le dépôt légal n'existe pas dans tous les pays, mais en France, au moins depuis François Ier, pour l'imprimer, il existe et il persévère et il continue pour le cinéma et pour l'audiovisuel. Mais du coup, le rôle des cinémathèques et le rôle des archives se trouvent redéfinis, puisqu'elles sont nées dans un temps où il n'y avait pas de dépôt légal, où il fallait quand même conserver quelque chose de l'ordre de la culture cinématographique, et qu'aujourd'hui, on a le dépôt légal, les cinémathèques, les archives et le web, qui donnent un tout autre rapport à l'objet culturel et à ses publics.
Marc Vernet, pour continuer sur cette question du pourquoi maintenant, alors effectivement l'INA vous a rejoint, mais est-ce que c'est aussi une question du moment? Est-ce que ça devient vraiment une urgence? Est-ce que le paysage qui est celui du patrimoine et de l'archivage est modifié radicalement? Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut en parler?
Moi je ne suis pas un expert de la conservation et de l'archivage, mais on voit bien qu'il y a une situation de crise pour les archives cinématographiques, audiovisuelles et pour les cinémathèques, dans la mesure où la circulation de l'image animée sur le web s'est considérablement développée. Il y a 20 ans, on savait numériser une page de papier. Aujourd'hui, on sait numériser un long métrage en grand écran, en couleur, et qui fait 2 heures de durée, et vous le téléchargez facilement. Ce rapport à l'objet a radicalement changé, et la diffusion de l'objet a radicalement changé. Et il y a plusieurs renversements. Le premier renversement, c'est que les archives cinématographiques se sont constituées au début des années 30, au moment où le privé se fichait pas mal de ce qu'allait devenir les bobines du muet, parce qu'il n'en avait absolument plus l'usage. Il n'en voulait plus parce que ça lui coûtait cher à stocker. D'accord. Alors aujourd'hui, à travers l'édition vidéo, le DVD et demain des sites de VOD, le secteur privé a totalement repris la main puisqu'il a toujours gardé les droits de ces œuvres en question.
Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'Henri Langlois, on n'a plus besoin d'Henri Langlois aujourd'hui?
Oh, si Henri Langlois n'avait pas été là, je ne serais pas là et il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas là. Henri Langlois a été en 1936 véritablement un pionnier et un fondateur en France. Il avait été précédé par l'Allemagne, par la Suède, par les États-Unis. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je pense que ce geste de conservation de quelque chose qui avait disparu, qui était en fait le cinéma muet, ce qu'a sauvé Langlois, d'abord, c'est le cinéma muet qui ne passait plus nulle part. Donc il a bien fallu que quelqu'un aille chercher les bobines, les mettre de côté et les conserves pour ensuite les remontrer. Ça, c'est le premier renversement. Le deuxième renversement, c'est que on a longtemps vécu en France sur la notion de gratuité à l'intérieur du service public. Et ça a été une source de conflit avec les ayants droit pendant longtemps. Mais aujourd'hui, le gratuit est largement du côté des détenteurs de portefeuilles et des industriels. S'abonner devient gratuit, avoir un portable devient gratuit, parce qu'on cherche à avoir un socle de personnes qui fait la masse critique de la diffusion sur le web. Et donc la notion de gratuité a changé de camp. D'une certaine façon. Donc, les cinémathèques qui longtemps vivaient par amitié, relations, etc., sur une modalité qui était une économie de pauvreté et largement dominée par la gratuité, se retrouvent aujourd'hui confrontés à la question du financement et du prix de leurs services.
Marc Vernet, est-ce que ça veut dire qu'on sort d'une économie de conservation qui était amateur, vous parlez des réseaux d'amitié, à quelque chose qui devient professionnel et marchand? Vous parlez du privé beaucoup dans votre réflexion. C'est quoi ce privé?
La différence entre l'imprimé et l'audiovisuel, c'est que dans l'imprimé, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans le domaine public. Donc, que vous pouvez dupliquer, faire circuler, sans porter atteinte à qui que ce soit. En cinéma, il n'y a pratiquement rien dans le domaine public, puisque le cinéma est trop jeune pour être tombé dans le domaine public. Je crois que Méliès, ça sera en 2009, d'accord ? Et on a peut-être en France Max Linder, parce qu'il s'est suicidé en 1925. Mais tout le reste est le fait de propriétaires, d'ayants droit, qui ont nécessairement un certain nombre de revendications par rapport à la circulation et à l'utilisation de la chose. Tant qu'on était entre soi et qu'on se prêtait, avec l'autorisation des ayants droit, les copies pour une projection, pas de problème, on ne lésait personne. À partir du moment où le fait de sortir un film sous une forme quelconque fait que peut-être le lendemain, il se retrouve sur le web vu par des centaines de milliers, quand ce n'est pas de millions d'usagers, repose problème évidemment pour les détenteurs d'ayant droit et sur la circulation et l'utilisation de ces documents.
Si vous considérez ça comme une forme de menace, j'ai du mal à voir. Pour vous, c'est quoi ça?
C'est que le rapport à l'objet change radicalement. Auparavant, pour voir un film, il fallait dans une salle de cinéma. Ensuite, il a fallu être devant son poste de télévision. D'accord. Et puis maintenant, vous l'avez quand vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez parfaitement acheter un DVD à Hong Kong sur une version extrêmement rare. Il vous arrive au bout de 15 jours et vous le regardez chez vous. C'est pas la peine de se déplacer et d'attendre que la Cinémathèque française le programme. D'accord. Donc, quel devient le rôle de la Cinémathèque française ? Oh, la Cinémathèque française a toujours un rôle, sauf que ce rôle a sans doute évolué et qu'il est peut-être plus dans la plus-value intellectuelle apportée à l'objet, dans la présentation, dans la sélection et dans la valorisation par la projection, mais aussi par d'autres biais. Donc, ça change beaucoup dans les métiers.
Donc, les perspectives, ce serait quoi, par exemple ? C'est organiser la diffusion d'un film avec un débat, avec des historiens du cinéma, avec... C'est ça la valorisation d'un film, par exemple ?
Ben, c'est d'abord se poser la question de la circulation, dégager, par exemple, souvent la question des droits, qui ne sont pas clairs sur les avoirs d'une cinémathèque ou sur les avoirs d'une archive, de façon à pouvoir le valoriser et l'utiliser et le diffuser, et d'imaginer d'autres formes d'accompagnement que simplement une projection un soir avec Jean Douchet ou un autre expert qui viendrait vous dire quel est le sens caché de l'œuvre. Parce que les gens peuvent voir ce film plusieurs fois, ils peuvent le voir sous autre forme. Donc cette forme-là de présentation et cette forme-là de valorisation, elle a eu sa nécessité, mais aujourd'hui, elle est légèrement décalé par rapport à la réalité des choses. C'est peut-être des expositions virtuelles d'accompagnement, c'est peut-être des sites thématiques, c'est peut-être des condensés d'informations vérifiées à donner aux cinéphiles de façon beaucoup plus libre et par d'autres voies que simplement le fait d'afficher à telle heure tel film.
Et une cinémathèque virtuelle.
Et sans doute une cinémathèque virtuelle, à condition encore une fois que la question des droits ait été solutionnée et garantie.
Une des questions, un des moyens de se débarrasser peut-être de cette question, c'est d'intégrer des diffusions dans un cadre éducatif, puisque les droits ne sont pas les mêmes dans un cadre pédagogique, il y a des choses qui évoluent de ce côté-là. Il y a une table ronde que vous avez menée, Marc Vernet, avant-hier, mercredi, qui s'intitulait « L'université, le patrimoine et le web. Où peut-on encore apprendre ?» Ou que peut-on encore apprendre du cinéma ? Quel était le contenu de cette table ronde, d'une part, et en quoi le web change dans la pédagogie du cinéma ?
Alors, c'est une question compliquée. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Moi, j'enseigne à l'université. Je corrige des copies. Je vois bien que 40% des copies sont piratées sur le web. C'est-à-dire qu'on est allé chercher un site où il y a la filmo d'Agnès Varda et une petite bio. Et puis, on recopie la veille au soir et on donne le dossier. Autrement dit, une forme de savoir relativement simple. Et c'est l'effet Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a un savoir...
On a parlé la semaine dernière dans place de
L'encyclopédie aujourd'hui n'est plus sous forme de différents volumes sur le rayonnage de grand-mère, mais est accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Donc il y a toute une forme de savoir assez simple sur le cinéma qui s'est diffusé, parfois même par le biais des experts, sur le web. L'université n'a pas vocation à répliquer ou à répéter ce qui se dit de la part de gens tout à fait sympathiques sur le web. Il faut donc apporter une autre vision de l'objet et puis un autre savoir par rapport à cela. Les droits ne sont pas les mêmes pour l'éducation. À partir du moment où le ministère de l'Éducation nationale paye les droits, c'est-à-dire qu'il fait son affaire des ayants droit. Vous savez que vous parliez du piratage tout à l'heure. Je viens de donner cours ce matin. J'ai utilisé deux cassettes en toute illégalité parce que ce sont des cassettes que j'utilise pour mon enseignement et pour lesquels les droits n'ont jamais été levés et que l'université n'a jamais pris ça en compte.
Et la police vous attend à la sortie du studio. Sur la question de la valorisation d'un fonds conservé par une cinémathèque, par une bibliothèque, par une médiathèque, est-ce que c'est aussi ce type de débat que vous connaissez, Ivalix, en tant que conservateur des bibliothèques ? Est-ce que votre expérience vous montre ça, que cette histoire de valorisation est centrale ?
Oui, c'est exactement le débat central pour les bibliothèques aujourd'hui, mais pour tous les types de documents, pas seulement pour l'image, mais aussi pour le son, même pour le patrimoine imprimé, le patrimoine graphique. En fait, il y a deux enjeux pour les bibliothèques. Le premier, c'est numériser leurs collections. Alors, toutes les bibliothèques n'ont pas des collections de même valeur, bien entendu. Et il y a beaucoup de bibliothèques dans le réseau des bibliothèques publiques, par exemple, qui n'ont pas de collections patrimoniales. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'aient pas des choses intéressantes à conserver. Donc le premier enjeu, c'est numériser leur collection. Le deuxième enjeu, qui devient de plus en plus crucial, de plus en plus présent aujourd'hui, c'est d'être présent sur le web. D'être présent sur le web parce que, comme le disait Marc, si tout est disponible sur le web, à quoi peut servir une bibliothèque ? C'est une question qu'on a posée, par exemple, au fil de conférences qu'il donne dans le monde entier, à Alex Byrne, qui est qui est directeur d'une bibliothèque universitaire à Sydney, mais qui est aussi le président de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires. Et on lui dit, on lui pose la question comme ça brutalement, si tout est disponible à travers Google, si tout est sur la toile, à quoi servent les bibliothèques ? Et Byrne, heureusement, ça nous réconforte quand on est bibliothécaire, dit « mais on ne sera plus utile que jamais ». Alors, une des premières raisons pour lesquelles la bibliothèque sera utile, c'est que la bibliothèque aura toujours un rôle social à jouer, en particulier avec le web.
Et quel rôle social quand on vient plus chercher des livres ?
Eh bien, d'abord, tout le monde n'aura pas Internet, tout le monde n'a pas accès au web et tout le monde n'a pas le même accès au web. C'est-à-dire qu'il y a ce que les Américains appellent l'information literacy, qui est très difficile à traduire en français. Mais on comprend bien qu'en fait, si on n'est pas capable de trier les informations sur la toile, eh bien, on est totalement impuissant devant le web et donc on ne peut pas accéder à l'information. Il y a donc une inégalité foncière. Et le bibliothécaire qui, à cause de ça, doit complètement repenser son métier, est là justement pour servir de médiateur, d'intermédiaire pour accéder à l'information. Donc il donne comme priorité aux bibliothèques, effectivement, cette maîtrise de l'information. Et d'autre part, il ajoute que les bibliothèques ont des trésors, ont des richesses qu'elles ne connaissent pas forcément et que chaque bibliothèque peut faire l'évaluation de ses richesses et essayer justement de les présenter, c'est-à-dire en fait d'investir le web. C'est aussi un des enjeux pour demain.
Et vous avez les moyens de ça, financièrement ?
Non, bien sûr.
Vous me rassurez.
Ça, c'est un paradoxe. Alors, on peut parler des bibliothèques françaises un instant. On peut dire, par exemple, que depuis 30 ans, on a construit des bibliothèques. Les collectivités territoriales ont investi énormément d'argent dans les bibliothèques avec l'aide de l'État. Le problème, c'est qu'ils s'aperçoivent que ces bibliothèques coûtent cher à faire fonctionner, que c'est très difficile et que, par exemple, dégager les moyens pour la numérisation, je pense qu'Arnaud Beaufort pourra en parler parce qu'il est en première ligne, c'est très difficile. La numérisation des collections coûte extrêmement cher et c'est peut-être aussi pour cette raison que des grandes bibliothèques américaines ou anglaises ont passé un accord avec Google pour numériser leurs collections, au moins celles du domaine public. Après, on verra celles qui sont sous droit.
Ivalix, vous vous occupez du bulletin des bibliothèques de France, dont le dernier numéro est intitulé « Bibliothécaire, quelle formation ?». J'imagine que cette question de l'accès, de la connaissance des nouveaux médias, des nouvelles technologies est centrale dans la formation des nouveaux bibliothécaires.
Elle est centrale et je crois qu'elle est prise en compte par les instituts de formation, par les nouvelles générations. Alors, il y a un problème qu'il ne faut pas évacuer, c'est qu'en France, par exemple, les bibliothécaires sont pour l'essentiel des agents de la fonction publique. Donc, ils ont un cursus de formation qui est très particulier, qui est complètement schizophrène, c'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, ils passent leur bac, ils suivent des études supérieures jusqu'à la licence ou à la maîtrise, ils passent un concours pour devenir bibliothécaire, qu'ils réussissent ou qu'ils ratent, mais c'est un concours généraliste. Par exemple, le concours de conservateur, c'est un concours généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un concours d'entrée dans une école nationale supérieure, où si vous savez faire une bonne dissertation et une bonne note de synthèse, eh bien, vous avez plus de chances de passer que d'autres, et pourtant c'est pas du tout ça qui va faire de vous un bon bibliothécaire. Voilà. Et cette difficulté qu'on retrouve aussi dans les bibliothèques territoriales, et eh bien difficulté qui devient croissante, le bibliothécaire il ne trouve pas le sens effectivement et le temps aussi d'avoir une formation qui soit tout à fait, disons, proche et adapté aux nouvelles réalités du métier. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un écart qui ne cesse de croître entre le processus de recrutement du bibliothécaire et puis la formation du bibliothécaire. Alors ça peut changer avec la loi du 2 février 2007, qui est la loi sur la modernisation de la fonction publique, qui a prévu le droit pour chaque agent public à une formation tout au long de la vie. Ça, c'est intéressant. Je crois que c'est une ouverture fondamentale. 3 jours au moins, au minimum, par agent et par an. Alors, si vous ne prenez que le minimum, vous aurez quand même à peu près 100 jours de formation sur 35 ans de carrière. Et maintenant, on va passer à 40 ans, etc. Et ce qui représente une centaine d'heures. C'est très peu. Marc Vernet pourrait en attester. C'est très peu, 100 heures. Mais vous pouvez prendre beaucoup plus. Et en tout cas, si vous avez 3 heures de formation par an, c'est 3 heures qui vous offrent une chance de vous rapprocher des nécessités du métier au moment où vous le faites.
Marc Vernet, vous vouliez réagir ?
Oui, parce que cette question de la formation que souligne très justement Ivalix, elle est vraie également pour les archives et pour les cinémathèques. Ouais. Et donc, le ministère de la Culture culture a voulu, à travers l'INP notamment, mais aussi à travers l'INA, rénover totalement les circuits de formation en matière d'archivistes audiovisuels. Et donc, il a créé des sessions de formation continue sur le mode des trois jours dont parlait Yves-Alix pour les cinémathécaires et les archivistes audiovisuels. Et l'INA a mis en place une formation initiale qui s'appelle l'INASUP pour des conservateurs. Donc, il faut aussi s'attaquer dès la racine, en quelque sorte, dès la formation initiale, mais aussi permettre la formation continue des personnels qui sont en place et qui voient bouger ce paysage et qui ont besoin de nouvelles compétences pour de nouveaux services.
Mmh. Vous parliez, Yves-Alix, de présence sur le net des bibliothèques de France. Alors, sous quelle forme? Avec quel contenu? Et surtout, une question qu'on se posait avec Thomas en préparant l'émission, c'est pour qui? Pour quel usage?
Alors, oui.
Parce qu'après tout, c'est très bien d'avoir des incunables du 15e, si ça peut être le cas d'ailleurs, de numériser un incunable, je ne sais pas.
Oui.
C'est très bien, mais pour quelle consultation? Qui ça intéresse?
Oui, la plus grande collection d'incunables au monde, qui est une collection d'une bibliothèque allemande, vient d'arriver sur le web. Donc on l'annonce aux professionnels. Ce n'est pas pour ça que le public, même en Allemagne, va aller consulter la collection d'incunables sur Internet. Toute la difficulté, c'est en fait de faire que la proposition de la bibliothèque sur le web soit au moins aussi intéressante, voire plus intéressante que la proposition de la bibliothèque physique, c'est-à-dire du bâtiment dans lequel on va aller. Alors, je crois que ça, c'est aussi une difficulté que les bibliothécaires n'ont pas résolue et ils ne vont pas la résoudre tout seuls. Il faut apprendre à être attractif sur le web. Alors, je pense qu'aujourd'hui, une des solutions, c'est de faire appel à son imagination, c'est-à-dire, en fait, d'investir le web, d'être partout, de faire feu de tout bois.
Dans ce dédoublement, Yves-Alix, entre une médiathèque physique et une médiathèque virtuelle, exister sur le web, exister physiquement, est-ce que on peut imaginer de manière très pratique qu'une médiathèque permette à ses abonnés, ceux qui ont la carte de la médiathèque, de venir physiquement à la médiathèque, mais pour télécharger ou de télécharger de chez eux des offres qui seraient inscrites dans cet abonnement,
oui,
mais
oui,
sans forcément dépendre de la médiathèque.
Absolument, c'est un des services que peut rendre la médiathèque. Il y a des expériences, par exemple à Troyes et dans d'autres établissements, mais on pourrait citer des exemples étrangers. On propose aux détenteurs de la carte de bibliothèque, effectivement, de s'abonner via la bibliothèque à des contenus. Par exemple, Arte met à disposition via les bibliothèques ses contenus en VO.
Voilà. Vidéo à la demande.
Oui, vidéo à la demande. Et dans ce cas-là, c'est la bibliothèque qui prend en charge le coût. C'est gratuit pour l'utilisateur de la bibliothèque qui passe par le portail de la bibliothèque pour, ma foi, se loguer. Et ensuite, il se retrouve sur la page d'accueil d'Arte et il peut consulter les films qu'il veut.
Il y a eu un exemple qui était donné pendant Archimage d'un système de bibliothèque danois où justement, négociation a été faite avec les détenteurs de droits pour la musique, par exemple, et avec des systèmes d'abonnements via la bibliothèque pour que des usagers puissent accéder à des sites de musique, mais avec cette fois un règlement des droits et une clarté dans l'usage. Les modes d'accompagnement des documents sont aujourd'hui très variés. On peut penser, par exemple, à de petites expositions virtuelles thématiques pour recontextualiser un document ou recontextualiser. Vous parliez d'un incunable. Bien sûr que cet incunable, il est inaccessible à monsieur tout le monde. Mais si on l'accompagne, non pas de quelque chose de pédagogique, mais de quelque chose de culturel, sur d'où vient-il, à quoi correspond-il, à quoi renvoie-t-il, on retrouve ce lieu de repérage qu'ont les bibliothécaires ou qu'ont les médiathécaires ou qu'ont les cinémathécaires traditionnellement.
On comprend que les bibliothèques, les médiathèques, en ce moment, connaissent un bouleversement et depuis nombreuses années. Est-ce que la Bibliothèque nationale de France, la BNF, Arnaud Beaufort, connaît des débats internes de ce type-là? Vous êtes responsable des réseaux, vous êtes directeur général adjoint de la BNF, et vous êtes directeur général des réseaux, des services et des réseaux.
Oui, manifestement, alors... oui. D'après l'énorme soupir qui passait de la réponse.
Alors, la BNF, effectivement, est plongée au cœur de ces enjeux et de ces problématiques. Tous les métiers, vous l'avez dit, sont impactés. Il y a effectivement, donc, vous l'avez bien sûr médiatisé, déjà d'énormes campagnes de numérisation qui sont opérées. La bibliothèque aujourd'hui numérise ses collections d'imprimés, on l'a dit. Yves-Alix, vous avez rappelé que être présent sur le web, c'est aussi de l'investir. Et donc, vous avez vu les efforts de début d'année pour justement essayer d'impulser une dynamique européenne autour d'une interface qui permet de valoriser comme ça des contenus de plusieurs bibliothèques et qui a fini par justement conduire à une vraie dynamique européenne aujourd'hui avec une fondation des salariés Et donc, l'effort de numérisation des collections se double, bien sûr, pour la bibliothèque, d'être aussi à l'écoute des besoins des autres acteurs culturels. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons rien juste pour la BNF, nous faisons aussi en mettant à disposition des autres. Et donc,
Les autres acteurs culturels?
Je pense notamment aux bibliothèques, comme vous le disiez, qui font des campagnes de numérisation. Une fois qu'on a numérisé, c'est une chose, mais il faut archiver de manière pérenne pour que l'investissement que vous avez consenti soit conservé au fil du temps, et puis le valoriser, c'est aussi le mettre en ligne. Et donc, il faut avoir des interfaces dans lesquelles on puisse tourner les pages de l'incunable en question, ou faire du copier-coller. Je suis désolé pour vos étudiants qui vont trouver d'ailleurs là encore de nouvelles sources pour des copier-coller.
On peut copier-coller, par exemple, un document sur Gallica, je ne sais pas moi, un texte de Balzac, parce qu'il est sur Gallica, on peut le copier-coller.
Alors, il y a...
C'est une parenthèse, mais ça me... Alors, là, du coup, les copies que va recevoir Marc Vernet, ça va être très, très
c'est
bizarre.
Ça, c'est Gallica ça. Étant cette bibliothèque numérique.
Alors, Gallica, jusqu'à maintenant, était une plateforme en mode image. Donc, vous avez tout à fait raison de poser la question, puisque, à l'occasion d'Europeana, le prototype fourni comme contribution française à la dynamique européenne, nous avons donc testé des services comme le moteur de recherche en plein texte, le surlignage sur facsimilé, c'est-à-dire que tous ces services-là, aujourd'hui, sont attendus par les internautes. Et donc, il fallait montrer que, déjà, on pouvait, avec des coûts très raisonnables, le faire. Bon, et après, toute l'idée, c'est justement de faire évoluer les plateformes aujourd'hui disponibles pour les internautes en France. Et donc, Gallica vient de pas laisser la place, parce que c'est en plus, Gallica 2 vient d'être lancé ces jours-ci, avec justement les avancées technologiques en question. Donc aujourd'hui, il est évident que pour faire sortir les idées qui se trouvent dans les ouvrages, vous avez besoin du plein texte. Parce que vous avez besoin de faire sortir ça comme réponse aux recherches des internautes. Donc, indépendamment du copier-coller, qui là pose en fait d'autres problèmes.
Parce que c'est un problème de détail, mais c'est oui, la question de pouvoir utiliser un texte comme une sorte de matière, comme ça,
absolument.
Le bouger, le
suivre. Et voilà. Et donc, si vous allez donc sur gallica2.bnf.fr, vous pourrez voir qu'effectivement, vous avez des ouvrages en mode texte que vous pouvez les télécharger en PDF et vous pouvez donc également les annoter. Donc, on a commencé à intégrer justement les avancées du Web 2.0. Mmh. Je vois qu'on parle du Web 3.0. Donc, on est en ce moment dans le Web 2.0 pour justement commencer la collaboration et le fait de marier les contenus issus des internautes avec les contenus de la bibliothèque.
Et on souligne qu'un plan triennal a été lancé il y a quelques semaines, d'une numérisation de 300 000 ouvrages supplémentaires dans le cadre de Gallica. Arnaud Beaufort, vous êtes avec nous aussi pour parler du dépôt légal de l'Internet, puisqu'on parlait d'archiver avec le web, mais il y a la question d'archiver le web. Est-ce qu'on pourra dans les années à venir vérifier, regarder un blog ou un site ou un site de journalistique ou un site de loisirs quelconque pour vérifier qu'à telle date, il y avait telle ou telle chose sur la page. Quels sont les critères de sélection du dépôt légal de l'Internet?
Alors, c'est très intéressant. Le dépôt légal de l'Internet, si vous voulez, c'est fait suite, j'allais dire, à la grande famille des dépôts légaux dont la BNF s'occupe déjà, puisqu'en 1537, ce sont les livres qui
vous allez
ont
les
fait
faire
l'objet
tous
d'un dépôt légal. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur le sujet. Mais en tout cas, bon, vous le savez, les images, les partitions musicales font l'objet, etc. Donc l'Internet, pour la BNF, c'est l'occasion de réconcilier les usages. C'est-à-dire que la BNF ne choisit pas de promouvoir finalement l'accès culturel par un média imprimé ou par un média online. Avoir confié à la BNF le dépôt légal de l'Internet, c'est quelque part le fait de reconnaître que ces pratiques culturelles sont pas équivalentes, mais également valables. Et c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, pour vous répondre très concrètement, la loi du 1er août 2006 a confié donc cette mission. Ça correspond à des collectes dites larges, où nous collectons le .fr avec les ramifications de manière à essayer de collecter tous les sites qui sont, si vous voulez, écrits sur le territoire. C'est vraiment le pendant du dépôt légal imprimé, si vous voulez. nous avons donc à cœur d'offrir ces collections. Et donc, pour être très précis sur votre question, nous attendons là prochainement le décret qui va permettre à des chercheurs en salle de lecture, en rez-de-jardin, pour justement avoir accès aux collections que nous avons capturées, si vous voulez. Alors, c'est difficile de capturer un média aussi vivant que l'Internet.
Est-ce qu'on peut le mettre dans un cadre Internet ?
C'est ça
la question quand même.
Alors, vous seriez étonné déjà de voir tous les services qu'apportent les captures qui ont été faites, puisqu'il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui ont disparu. Vous pouvez bien sûr retrouver des versions antérieures de sites que vous consultez tous les jours, et c'est toujours riche d'enseignements.
De son utilité, on n'en doute sans doute pas, d'un dépôt légal, d'un point de vue de recherche, d'histoire, de mémoire, de patrimoine.
Oui.
Mais sur l'efficacité, entre guillemets, c'est-à-dire il y aura forcément des fuites énormes, non ?
Oui, alors ça c'est mécanique sur un tel média de masse avec une telle masse de documents. À chaque collecte large, nous avons 4 téraoctets de données qui sont mises en machine. Donc non, c'est des choses considérables. Bon, maintenant, si vous voulez, le cinéma, c'est quand même que 25 images à la seconde et ça vous rend compte du mouvement. Donc je ne doute pas que
24,
pardon. Je ne doute pas. Je ne doute pas que, oui, par des collectes assez régulières. Par exemple, je prends l'exemple des élections. Pour les élections,
vous avez fait une tentative d'archiver la campagne sur le net.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de collectes larges, comme je disais, qui font une photo à un instant donné du patrimoine culturel, encore une fois, à disposition des gens. Et donc, nous avons des collectes thématiques qui rentrent plus en profondeur et qui sont là faites en partenariat avec des bibliothèques qui, en région, nous disent, eh bien, il faut aller chercher le blog Intel ou le site du candidat situé dans la ville, de manière à faire remonter, si vous voulez, des sites qui auraient échappé à une collecte large. Et là, nous descendons beaucoup plus en profondeur. Sur une collecte large, nous allons aller jusqu'à 4-5 niveaux. Et là, sur ces campagnes, nous archivons la totalité des informations disponibles. Donc vous retrouvez... Regardez, si vous venez à la BNF, vous pouvez, pour tous les candidats, par exemple, aller voir leur profession de foi, parce qu'elles sont archivées par le département philosophie, histoire. Vous avez maintenant le pendant des professions de foi, c'est le blog des candidats. Et c'est disponible. Donc vous voyez, on marie les formes et les contenus.
Et quand est-ce qu'on aura le pendant avec les résultats des candidats?
Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est une vraie question.
Arnaud Beaufort, est-ce que le dépôt légal, ce n'est pas d'abord une manière de faire entrer quelque chose de neuf, une nouvelle culture dans des schémas? Dans les schémas qui sont ceux du vieux monde, entre guillemets, pour rassurer, pour légitimer un peu cette production Internet. Ah ben, on dit le dépôt légal, c'est 1537.
Oui, je trouve très très bien que on marie, comme on l'a dit, c'est-à-dire que le fait de, dans une institution séculaire comme la BNF, le fait de dire, voilà, il y a une production imprimée, il y a une pratique culturelle de l'imprimé, mais il y a une pratique culturelle du net, il ne nous appartient pas de juger de la valeur respective. Et c'était, voilà, ce sont des pratiques également valables. Donc la BNF s'occupe également du web.
Oui, mais oui. Est-ce que tout a vocation, pour parler comme Nicolas Sarkozy, à être conservé dans ce qui circule sur le web ? Parce que, c'est quand même... Parce que, voilà, quel registre a l'écrit sur le web ? Par exemple, un forum de discussion. Mm-hmm. Il y a des forums de discussion qui suivent des blogs ou même d'autres sites. Est-ce que tout ce qui est échangé, même sous forme photographique, même si vous le captez à un moment donné, est-ce que ça a vocation à rester ? Est-ce qu'on enregistrerait des conversations ? Puisque c'est peut-être plus de l'ordre de la conversation que de l'ordre d'un échange épistolaire, un forum. Donc du coup, là, se pose vraiment la question de savoir, est-ce qu'il faut tracer ça ? Parce que conserver, c'est tracer aussi.
Alors, c'est vrai. Encore une fois, la mise à disposition, vous le voyez, se fait dans un cadre très encadré, si je puis dire, puisque c'est en rez-de-jardin de la BNF, avec justement la possibilité d'aller rechercher dans les contenus. Je vais prendre, pour illustrer ma réponse, l'Association pour l'autobiographie de Philippe Lejeune, en fait, est partenaire de la BNF, puisque, si vous voulez, les blogs aujourd'hui s'apparentent aux journaux intimes d'hier. Et donc, effectivement, nous avons ce débat.
C'est-à-dire que nous
sommes obligés effectivement de souhaiter donner une image de la culture d'un pays et en même temps de le conserver. Et en même temps, effectivement, vous avez raison de ne pas descendre trop loin. C'est la raison pour laquelle nous avons un mariage de ces collectes assez superficielles qui prennent une sorte de photo, un instantané, sans rentrer trop profondément dans les sites. Et puis, sur des sujets particuliers, vous voyez, il y a une attention pour justement conserver par rapport à des contenus qui disparaissent. C'est-à-dire que les argumentaires de campagne, etc., qui apparaissent sur les sites d'un candidat, est fermé derrière. Donc, il y a une extension de la mission de dépôt légal et qui nous est d'ailleurs confiée par la loi.
Marc Varnet,
ce débat est tout à fait passionnant parce qu'on est tout à fait entre l'idée d'une technologie qui aujourd'hui permet de absolument tout capter et de tout conserver, en compressant, etc., bon, et de l'autre côté, la notion de culture. Alors, on évoquait tout à l'heure, par exemple, la diffusion de la culture et le fait qu'il pouvait y avoir des barrières, etc. On peut voir un éditeur qui publie des ouvrages comme une barrière. Parce qu'il prend certains manuscrits, il n'en prend pas d'autres.
C'est ce que disait.
Mais on peut aussi considérer un éditeur comme faisant un travail éditorial d'argumentation, de discussion avec l'auteur, de construction, je ne veux pas dire d'amélioration, mais de fabrication de l'objet. Ce rôle intermédiaire d'éditeur est absolument fondamental et il participe pour moi il s'agit aujourd'hui d'éditer des œuvres, c'est-à-dire de les accompagner auprès du public. Alors la bouteille à moitié vide, c'est qu'on peut considérer ça comme une barrière. La bouteille à moitié pleine, c'est que là, je crois, on fait aussi un travail culturel.
Merci d'avoir été avec nous tous les trois pour évoquer cette question d'archiver avec le web, archiver le web. Marc Varnet, je rappelle que vous êtes occupé d'Archimage, la 7e rencontre qui ont eu lieu ces 3 premiers jours de la semaine. Est-ce qu'un 7e Archimage est déjà prévu?
Alors, Archimage 08 est en préparation. Le comité de pilotage va se réunir au mois de décembre et nous allons commencer à esquisser le programme de l'année prochaine.
Yves Alix, vous avez le titre de conservateur des bibliothèques. Vous vous occupez du bulletin des bibliothèques de France, dont le dernier numéro est consacré à la formation des bibliothécaires. On peut le trouver où? On peut le trouver sur Internet, le BBF, le
intégralement en ligne dès la parution.
Et Arnaud Beaufort, merci aussi. Vous êtes directeur général adjoint de la BNF, chargé des services et des réseaux.
Merci.
Achever cette place de la toile, comme chaque semaine, la chronique de Bruno Patino. Alors aujourd'hui, une chronique, Bruno, qui pourrait être un titre de chanson ou un mantra, hein, un vendredi sans mail.
Et oui, un vendredi sans mail. Aujourd'hui, c'est vendredi, beaucoup d'entre nous, ceux qui disposent d'une connexion Internet, bien beaucoup d'entre nous vont recevoir des emails, des courriers électroniques, parfois quelques-uns, quelques dizaines, voire pour certains d'entre nous, quelques centaines. Mais peut-être certains de nos auditeurs ont-ils déjà suivi l'initiative lancée il y a quelques mois par une entreprise de téléphonie mobile nord-américaine US Cellular et qui a également été adoptée ce mois-ci par les ingénieurs d'Intel aux États-Unis. Quelle est cette initiative? Eh bien, il s'agit d'instaurer les vendredis sans email, les Zero Email Fridays. Des vendredis où l'on décide, ou même on nous ordonne d'appeler les interlocuteurs au téléphone, de les rencontrer face à face, plutôt que d'envoyer le sempiternel email qui encombre nos boîtes. On a remarqué, dit un ingénieur d'Intel, que la communication passe mieux quand on ne se contente pas des emails. Alors, ils ne sont pas vraiment interdits, mais ce jour-là, on essaye de, je cite, « se désintoxiquer ». Un gadget que cette démarche, pensez-vous? Eh bien, pas vraiment. Le succès qu'elle rencontre, car elle rencontre du succès, traduit notre désappointement face à l'avalanche d'emails qu'a engendré Internet. Chaque jour, autour du globe, 40 milliards d'emails personnels s'échangent sur la toile, enfin 39,7 milliards exactement, d'après une étude du cabinet IDC, auquel s'ajoutent 17,1 milliards d'emails d'alerte émis par des machines et surtout 40,4 milliards de spam, ces emails non désirés qui nous proposent alternativement des offres commerciales plus ou moins licites ou plus ou moins loufoques, du Viagra aux jeux de casino, des diplômes factices aux machines pour allonger les pénis. Faites le calcul, oui, je suis sûr que vous en avez reçu, Thomas, vous rigolez, mais je suis sûr que vous en avez reçu.
C'est Christina qui m'a envoyé.
Faites le calcul, on parle là de 97,3 milliards d'emails quotidiens à comparer avec les 15 milliards de courriers électroniques qui s'échangeaient chaque jour sur la toile en 2002. près de 100 milliards de messages électroniques donc, soit par jour, soit une moyenne de 80 emails par individu connecté. 80 messages, un chiffre qui peut d'ailleurs paraître idyllique au cadre américain, qui reçoivent en moyenne entre 150 et 200 mails par jour. Un autre cabinet américain, décidément, qu'est-ce qu'il y a comme cabinet aux États-Unis,
il calcule
tout le temps, a estimé qu'un cadre américain passait en moyenne 95 minutes par jour à consulter ses emails, soit près de 8 heures par semaine de travail. D'où la notion que l'on voit peu à peu apparaître, comme toujours aux États-Unis, la faillite email, ma traduction approximative pour la mail bankruptcy. Le principe est simple et le rapport avec la faillite assez direct. Quand une entreprise ne peut plus faire face à ses charges, quand le poids de ses créanciers devient trop lourd par rapport à ce que son exploitation lui rapporte, eh bien, elle peut se déclarer en situation de faillite, incapable de faire face à sa situation. Eh bien, le quotidien nord-américain USA Today, dans son édition du 3 octobre, raconte le cas d'un ingénieur de San Diego, Edward O'Connor, qui s'est déclaré officiellement en faillite email il y a maintenant un mois. J'avais encore 750 messages importants non lus demandant une réponse urgente et absolument obligatoire, alors que certains dataient d'il y a plus de 3 ans. Et comme je reçois plus de 200 nouveaux mails par jour, nous raconte notre ami Edward, je ne pouvais plus faire face.
On a interné ?
Non, il s'est déclaré en faillite email et a envoyé un mail à l'ensemble de ses contacts pour leur dire qu'il effaçait de sa boîte l'ensemble des messages lus ou pas et qu'il ne répondrait à aucun mail antérieur à sa date de faillite. Tant pis pour les conséquences. Bref, il remettait tout à zéro et tant pis pour ceux qui attendaient une réponse. Et son cas est loin d'être unique. Plusieurs stars de la toile américaine ont procédé de la sorte depuis, comme Jeff Nolan, Michael Harrington et Vanessa Fox. La Vanessa qui vous a envoyé un mail tout à l'heure. Et je dois vous avouer qu'après avoir vu leur exemple, j'ai peut-être envie de faire de même. Cela étant, l'exemple des emails nous ramène à la nature de ce nouvel espace numérique dans lequel nous évoluons. Il nous laisse entrevoir les effets que provoque un réseau permanent interconnecté sur nos comportements. Et je pense que les emails, la façon dont nous les gérons, mettent en exergue notre rapport à la profusion, à l'addiction et à la délégation. Je vous en ai souvent parlé, l'univers numérique, c'est un univers de profusion où nous devons non pas évoluer face à la rareté, mais face au trop-plein. Peu à peu, on s'aperçoit que ce n'est pas le message qui a de la valeur, mais la capacité qui nous sera donnée de les sélectionner, de les trier et de les ramener à un nombre qui soit accessible par nous. L'enjeu n'est pas le message, mais bien de savoir à qui ou à quoi nous allons confier cette capacité de tri. À des êtres humains, rémunérés ou pas pour cela, à des formules mathématiques, à des entreprises ou au hasard. La question reste ouverte et la compétition est lancée. La deuxième idée, c'est celle de l'addiction. Je suis sûr que chacun de nos auditeurs a parmi ses connaissances une personne qui, dans la vie quotidienne ou au travail, consulte ses mails en pleine conversation ou en pleine réunion, sur son ordinateur ou sur son téléphone portable. L'addiction à la toile et à son rythme permanent est une réalité et elle n'est pas sans conséquences. La consultation des emails ou autres messages électroniques scande désormais les heures de nombre de nos contemporains, entraînant des ruptures permanentes dans la conversation, la concentration, bref, le vivre ensemble. Une autre étude, décidément nord-américaine, évalue à 4 minutes le temps nécessaire pour retrouver un niveau de concentration optimal après une rupture suite à la consultation des emails. 4 minutes alors qu'au bureau, toujours d'après la même étude, le temps moyen entre les consultations d'emails excède rarement le quart d'heure. Faites le calcul, il est aisé, les emails hachent désormais notre réflexion. Le dernier point concerne ce que j'appellerais peut-être de façon un peu maladroite, la délégation. Nous nous cachons derrière la toile pour éviter d'avoir à faire deux choses, prendre les décisions et annoncer les mauvaises nouvelles. Plusieurs chercheurs ont remarqué que nous utilisons l'aspect informel des mails, le fait qu'ils soient noyés dans une masse indéterminée pour transmettre un travail inachevé ou une information incomplète. Alors qu'en utilisant une note écrite, je vois que nos invités sourient, ils sont confrontés à ça manifestement, alors qu'en utilisant une note écrite ou un appel téléphonique, nous aurions attendu d'avoir fini notre travail ou d'avoir recueilli la totalité de l'information nécessaire avant de rentrer en contact avec notre destinataire. En accélérant la vitesse, la toile nous place dans un processus permanent qui semble nous pousser à ne pas aller au bout des choses. Et dans le même ordre d'idées, le courrier électronique nous sert souvent à annoncer les choses désagréables que nous n'osons pas dire en face. J'ai toujours en mémoire ce dessin de New Yorker qui montre le parvis d'une église avec un couple juste marié saluant ses amis. Et au pied de l'église, une autre femme en habit de mariée est en train d'arriver en courant, un bouquet à la main. Et sur le parvis, l'homme du couple récemment marié lui dit « Ah mince, je vois que tu n'as pas reçu mon email ». Le réseau, c'est le face-à-face dilué, l'affrontement délégué. Donc profusion, addiction, délégation, ces trois phénomènes, nous devons désormais apprendre à vivre avec et à les maîtriser, sans qu'ils nous emportent. Et c'est le défi des hommes digitaux que nous sommes tous désormais appelés à devenir.
Merci Bruno. La seule chose qu'on voulait savoir, c'était savoir si vous aviez fait ou pas ce vendredi sans mail, et vous ne l'avez pas dit.
Incapable. J'en suis tout à fait incapable.
Mais c'était donc Place de la Toile dans Question d'époque. Thomas Baumgartner, Yaël Mandelbaum, Xavier Delaporte à la technique. Aujourd'hui, c'était Pierre-Henri, réalisation Doria Zénine. Il est...
Il est 11h59 et vous écoutez France Culture.